Je vous invite à partager un texte de l'évangile de Luc, chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 17. Luc, chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 17. La parole de Dieu dit que Jésus enseignait dans une synagogue un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit. Il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour du sabbat. Et le Seigneur lui répondit, hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat? Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de confusion et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Le titre du message de ce soir, c'est « Emprunter les yeux ». En lisant ce texte et en réfléchissant un peu au sujet que nous voyons aussi dans notre société, et je crois qu'on est tous conscients que nous vivons dans une ère où nos yeux sont fortement sollicités. N'est-ce pas? Quelqu'un me disait dernièrement qu'il avait passé en vision des vidéos pendant 400 heures. 400 heures d'images, vous savez, sur ces réseaux sociaux, où vous avez une vidéo qui entraîne une autre. 400 heures. Tant de temps. Hein? Bon, on ne va pas s'arrêter là-dessus. Chacun on utilise nos yeux pour voir bien des choses. Est-ce que vous regardez jamais une petite vidéo sur votre téléphone? Oui. Hein? Alors peut-être que ça fera 400 ans dans toute la vie, il y en a un qui brûle les étapes plus vite, mais ce qui est à retenir, c'est la portée de ces images et la portée, le message que ces images peuvent délivrer, n'est-ce pas? Certaines vidéos, elles sont vraies, d'autres sont complètement fausses. D'ailleurs, ils réfléchissent à comment régler le problème. Bon courage. On entend parler d'influenceurs, on entend parler de bien de choses qu'aujourd'hui sont devenues monnaie courante dans le langage, surtout celui des jeunes, n'est-ce pas? Et on pourrait se dire, mais ça a été inventé maintenant. Bon, on va faire un exercice, parce que je crois aussi que quand on regarde ce qu'on regarde, ça peut avoir une influence sur notre manière de faire, notre manière d'agir, notre manière de parler. Parce qu'on prend les images qu'on voit, très souvent, pour une valeur sûre. Et si on faisait un exercice différent? Si on empruntait les yeux? Nous venons de lire un texte, et ce soir, j'aimerais vous encourager à faire cet exercice avec moi. On va emprunter les yeux des différentes personnes dont on a lu l'histoire. Les premiers yeux qu'on va emprunter, c'est ceux de la femme. D'accord? Vous êtes prêts? On y va. Le texte nous dit qu'il y avait une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Et elle était courbée et ne pouvait pas se redresser. Alors imaginez cette femme qui est courbée, qu'est-ce qu'elle peut voir? Si on était à sa place, qu'est-ce qu'on pourrait nous voir? Le sol, quoi encore? Les pieds, quoi encore? Ça doit être magnifique hein, de regarder les orteils des uns et des autres. 18 ans comme ça, à la fin, on doit avoir une spécialisation en orteil. Non? Si on se met à la place de cette femme, pendant 18 ans, elle n'a jamais pu regarder les autres droit dans les yeux. Elle devait toujours regarder du bas vers le haut. Elle devait pas seulement être regardée d'une certaine manière, mais sentir le regard des autres qui n'était pas toujours rempli de bonté, de miséricorde, de compréhension. N'est-ce pas? D'autant plus que quelqu'un qui vivait comme ça, il devait être certainement très souvent jugé. Cette femme vivait une situation difficile. Est-ce que vous avez jamais pensé avant à emprunter ses yeux et analyser ce qu'elle vivait? Vous savez, c'est très rapide pour nous parfois de juger certaines choses sans avoir pris le temps de se mettre à la place de la personne. Je ne dis pas que la personne elle a toujours raison. Parce que d'ailleurs, Jésus ne cache pas que cette femme se trouve dans une situation bien particulière. Néanmoins, malgré les défauts qu'on pourrait trouver, vous savez que celui qui cherche, trouve, non ? Et ça, on est très fort à trouver les défauts ailleurs, pas chez nous. Nous, on n'a pas de problème. Mais ailleurs, c'est facile, parce que nos yeux voient vers l'extérieur, très difficilement vers l'intérieur. Donc, malgré ça, ce qui m'a interpellé, c'est que cette femme, malgré tout ce qu'on peut penser, dire, voir, elle était où ce jour-là ? Au temple. Qu'est-ce qu'elle désirait surtout ? Et qui elle désirait voir ? Waouh ! Qui voudrait voir Jésus ? Ah, là, ça nous intéresse d'emprunter ses yeux. Hein ? Elle a pu voir Jésus. On va plus loin. Parce que ce n'est pas les seuls yeux qu'on va emprunter. On a fait très rapidement, parce que je pense qu'après, vous aurez le temps d'y réfléchir encore à la maison. Je vous invite à y reméditer. Et peut-être pour bien d'autres textes, essayez d'emprunter les yeux de la personne. Mettez-vous un peu dans ses chaussures ou dans ses sandales. On va emprunter les yeux du chef de la synagogue. Voilà. Cet homme qui est là, qui se met un peu en colère et qui dit, il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Quel regard ! C'est quelqu'un qui ne voit que la loi et certainement pas la grâce, non ? Il est là et peut-être qu'il est même frustré au fond de son cœur parce qu'il se dit « ce n'est pas normal ». Qu'est-ce que Jésus vient faire des miracles ici ? Ça fait X années que cette femme, elle vient, 18 ans. Jésus arrive et l'a guérie. Hein ? Pas un jour de sabbat, allez. Et combien de fois, nous, par nos propres règles, on est presque en train de dire à Jésus ce qu'il a à faire ou pas ? Est-ce qu'on peut dire à Jésus ce qu'il a à faire ou pas ? Mais est-ce qu'on est sûr de pas de temps en temps quand même de dire « Seigneur, regarde ton agenda ». Alors cet homme, il ne va pas prendre Jésus face à face en lui disant « Jésus, qu'est-ce que tu as fait ?» parce qu'il avait vu quand même que ça produisait quelque chose, le miracle de Jésus. Mais certainement cet homme, on va dire qu'il y voyait un peu rouge, jaloux, et mépris de la souffrance des autres. Une femme courbée depuis 18 ans. Si je pose la question à quelqu'un qui a installé du carrelage dernièrement, hein ? On passe, allez, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, après on a besoin de se redresser. Alors je ne sais pas vous si vous vous redressez en prise directe ou vous y allez par étapes, tout en douceur, parce qu'on se dit quand même, il faudrait laisser le temps à que le sang recircule de la bonne manière, mais imaginez vivre 18 ans courbé. Et vous savez, là on parle d'une femme qui est courbée, mais il y a des personnes qui, bien peut-être depuis 18 ans, voire plus, ou même moins, même si c'était moins, qui seraient prêts à dire, bah, écoute, moi je veux bien faire une année courbée. Ça peut sembler long une année, non ? 2 ans, allez. Mais 18 ans, waouh ! 18 ans. Et cet homme, il fait preuve d'avoir aucune compassion, non ? On pourrait presque utiliser aucune pitié. Jacques chapitre 1, versets 22 à 27, il dit ceci, et je crois que nous devons tous être vigilants et demander à Dieu de nous garder de tomber dans de tels pièges. C'est un piège. Hein. Il dit, pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement, en vous abusant par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il est. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui persévère non pas en l'écoutant pour l'oublier, mais en la pratiquant activement, celui-là sera heureux dans son action même. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme ou de cette femme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu le Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se garder des souillures du monde. Est-ce que vous voyez là dans ce discours à quelques moments que Dieu nous dit de juger les uns et les autres? Quel doit être notre... Quand il parle de religion, c'est surtout d'une véritable foi. Celui qui veut véritablement vivre par la foi. Et par la foi, c'est vivre en honorant le Seigneur toute sa vie. À quoi Dieu nous appelle? À prendre soin. À nous garder, nous, de juger, parce que je crois qu'il y a bien des éléments qui nous manquent. Alors, est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous garder, d'avoir les yeux du chef de la synagogue? On emprunte d'autres yeux? Ça vous va? C'est mieux, hein? Des yeux magnifiques. Les yeux de Jésus. Ah. Vous savez, ça m'a interpellé parce qu'au verset 12 dit Jésus, la vie. C'est magnifique. Pourtant, je pense que le rôle, la responsabilité, la charge qui était sur les épaules de Jésus et devait être telle, la pression de toutes ces personnes, la pression aussi liée au ministère qui était le sien, devait certainement lui occuper énormément les pensées. Nous, quand on est trop pris dans notre tête, on peut faire les choses d'une manière mécanique, mais combien de fois on se dit « Ah, j'ai pas vu ». On peut passer à côté de quelqu'un, dit je t'ai pas vu, pardon, j'étais dans mes pensées. Et là, le texte me dit Jésus, la vie. Et on va analyser avec ses yeux comment Jésus voit. Jésus l'a vu, lui adressa la parole et lui dit femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Jésus voit et parle à quelqu'un que les autres peut-être ne voyaient plus. Quelqu'un peut-être que les autres ne regardaient plus. Jésus s'approche et touche quelqu'un que les autres ne touchaient pas parce qu'il l'a considéré comme quelqu'un de maudit. Et donc, puisqu'elle était malade, elle pouvait peut-être pour eux, selon leur considération, selon leur regard, pouvait devenir une pierre d'achoppement. Peut-être que certains se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait parmi nous, celle-ci? Non? Elle ne devait pas être là. Et pourtant, elle était là parce que cette femme, elle avait besoin de Jésus. Et je crois que la maison du Seigneur, elle est faite pour tous ceux et celles qui ont besoin de rencontrer Jésus. Et ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on vient à l'Église. Parce que le jour où on est parfait, si cela arrivait, ben on serait pris dans le ciel. Vous êtes toujours là? On est toujours là? C'est qu'il y a encore du travail. N'est-ce pas? Je parle pour moi. Après, chacun regarde à son chantier. Non? Mais là, dans l'histoire, Jésus brise les codes religieux. Parce que Jésus voit cette femme et en voyant cette femme, Jésus voit dans la bonne direction. Jésus voit une âme qui souffre. Et il ne peut pas se contenter de dire « oui, elle était là ». Jésus n'est pas là en train de compter s'il y avait 50, 100 ou 300 personnes à la réunion. Non, ce n'est pas ce qui l'intéresse. La preuve, c'est que Jésus s'est déplacé pour une âme seulement, non? Donc, est-ce que c'est un problème de nombre? Jésus n'a pas regardé si elle était bien habillée ou elle était habillée... D'ailleurs, ça ne devait pas être facile pour elle de s'habiller. Non ? Pas facile de vivre la vie de tous les jours. Imaginez courbé. Nous, quand on est courbé, qu'on a mal au dos, pas évident, hein ? Et pourtant, Dieu merci, on vit avec certaines facilités. Quand on va se coucher, c'est souple. Eux, c'était raide. Pas facile. Mais Jésus, pas seulement brise les codes religieux, Jésus lui impose les mains. Parce que Jésus touche ceux et celles qui ont besoin. Parce que ce que Jésus voit, c'est au-delà de ce que les autres peuvent voir. Et je me dis que si on prend le courage de demander, d'emprunter les yeux de Jésus, peut-être on verrait les autres autrement. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En repartant de ce lieu, demandez au Seigneur de vous emprunter ses yeux pour voir peut-être telle ou telle personne. Peut-être que dans la semaine, vous l'avez analysé d'une certaine manière, mais soyez vrai. En tous les cas, Dieu sait toute chose, non ? Dites au Seigneur, Seigneur, prête-moi tes yeux, je voudrais la voir avec tes yeux, cette personne. Je suis certain, excusez-moi, qu'on terminerait par pleurer. Ce n'est pas les yeux de Jésus qui pleurent, parce que si lui pleure, il pleure pour nous. Mais c'est les nôtres qui diraient, Seigneur, comment j'ai pu regarder telle personne de cette manière ? Et là, Jésus, pas seulement il la voit, pas seulement il lui parle, pas seulement il lui impose les mains, mais Jésus la relève, il la redresse. 18 ans. Le texte ne nous dit pas le bruit que ça fait. Mais ça a dû faire du bruit quand même. Hein ? Ring ! Eh oui, il y a des choses qui doivent craquer dans notre vie. Il y a des choses qui sont restées figées depuis trop longtemps. Est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, viens. Viens me redresser. Seigneur, viens me relever. Seigneur, viens m'enlever ce fardeau parce que ça fait depuis trop longtemps que ça dure. Vous savez, il y a parfois, là c'était le problème de maladie, mais parfois on porte des fardeaux qui nous courbent. Ça nous courbe et ça devient de plus en plus lourd et difficile. Et tant que quelqu'un ne vient pas nous aider et nous relever, on n'y arrivera pas. On peut être même, excusez-moi, écrasé par le poids de nos problèmes. Est-ce qu'on est heureux d'entendre que Jésus peut et nous voit et qui vient nous parler et qui vient régler nos problèmes ? Qui a besoin de Jésus ce soir ? Mais est-ce qu'on est prêt à dire, Seigneur, voilà, tu vas me redresser ? Et si Dieu nous redressait d'un coup, la perspective change. Vous imaginez cette femme après 18 ans ? Oh là là ! J'ose imaginer ce que cette femme a dû expérimenter. Je l'ai vue avec une sœur qui avait un problème de dos. Elle vient à une réunion parce que sa fille lui dit « Maman, ce soir, tu devrais aller à la réunion. » Elle n'avait pas prévu. Et sa fille, qui avait 12 ou 13 ans, lui dit « Maman, ce soir, tu devrais aller à la réunion. » Elle lui dit « Pourquoi tu veux me chasser de la maison ?»« Non, non, mais tu devrais aller à la réunion. » Son mari, il l'appelle, lui dit « Tu sais, tu devrais aller à la réunion ce soir. » Elle s'est dit « Mais tout le monde m'envoie à la réunion. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent préparer, je sais pas, une fête, j'en sais rien, mais bon. » Je vais à la réunion et cette sœur, elle souffrait depuis des années de problèmes de dos. Il y avait des radios, il y avait des analyses incurables. Il n'y avait rien à faire pour son dos. Elle vient à la réunion. Et au moment de la prière, elle s'avance. C'est une ancienne salle de cinéma. Elle descend cette rampe. Pas évident pour quelqu'un qui a mal au dos. Mais elle vient et elle demande la prière. On prie pour elle, elle commence à remonter la pente et d'un coup, je la vois secouée dans tous les sens et arriver au fond de la salle en train de sauter et d'agiter les bras parce que pendant qu'elle remontait, elle a entendu un craquement au niveau de son dos et tout s'est remis en place et elle avait été guérie par la grâce de Jésus-Christ. C'est beau, hein ? Elle a été voir son médecin. Déjà, elle a remercié sa fille et son mari qui l'ont envoyé à la réunion. Hein ? Et du coup, le dimanche, ils étaient tout fiers. Je dis oui, elle est venue. Et vous, vous étiez où ? Elle me dit, c'est bien, pasteur, dis-leur. Hein ? Mais après, elle est allée voir son médecin, elle a pu témoigner à son médecin. Elle a pu témoigner à son voisinage, elle a pu témoigner à sa famille, parce que tout le monde savait ce qu'elle avait vécu. Et imaginez cette femme finalement pouvoir voir les uns et les autres, et comment Jésus la voyait, et il dit « cette femme est une fille d'Abraham ». Jésus ne la regardait pas comme quelqu'un qui était une pestiférée, comme quelqu'un rejeté, non, mais quelqu'un qui était malheureusement devenu, qui était lié par Satan depuis 18 ans. Nous, peut-être, on voit quelque chose et on juge la personne, mais Seigneur sait comment résoudre le problème. Et il voit le problème, il voit surtout l'âme qui a besoin de son secours. Et Dieu soit béni parce que c'est ainsi qu'il nous regarde. Alors, je vous invite à prendre encore un instant pour analyser les effets de voir comme Jésus. Parce que ça a un effet. On doit accepter que du moment qu'on dit « Seigneur, montre-moi comme toi tu vois », ben notre regard change, non ? Et ça produit deux types d'effets. Le premier, c'est que d'un coup, Jésus s'est retrouvé avec des adversaires. Il y a toujours les pour et les contre, non ? Ceux qui étaient contre, verset 17, tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient remplis de « Ah, c'est beau !» Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent plus quoi penser. Ça veut dire que jusque-là, ils avaient des convictions profondes et là, Jésus a ébranlé toutes leurs fausses convictions. Vous savez, je le disais tout à l'heure en formation baptême, on peut être convaincu, on peut être sincère, mais on peut être sincèrement dans l'erreur. Non ? Tout en étant très convaincu et même convaincant. On peut convaincre notre monde en disant « moi j'ai raison, les autres ils ont tort ». Sauf que quand Dieu intervient, quand Jésus intervient, tout est remis en question. Et pour ces personnes qui étaient là avec une volonté de montrer leur aversion vers Jésus, et vers là c'était la confusion totale. Le psaume 35, verset 19 à 21, Psaume 35, verset 19 à 21, dit que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sont cause ne m'insultent pas du regard. Car ils ne parlent pas de paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et ils disent « Ah, nos yeux regardent ». C'est ainsi qu'ils regardent ceux qui sont contre le Seigneur et on doit être prêt aussi à que peut-être nous, nous soyons regardés comme ça. Non ? Parfois, ça peut arriver de donner quelque chose à quelqu'un. Et peut-être on entend toujours quelqu'un à côté de dire « Ah, il ne faudrait pas. Ils n'ont rien à faire là-devant. » Un jour, il y avait une dame qui s'installait devant l'église et faisait l'aumône. Et un jour, une personne de l'église est venue me voir et dit « Il faudrait que tu lui dises de s'en aller. » Je lui dis « Surtout, vous ne la touchez pas. » Parce que cette femme, certes, elle avait besoin de manger, mais une fois tout le monde était rentré à l'église, vous savez quoi ? Elle venait à l'église. Et s'installer derrière où personne ne la voyait, elle écoutait l'évangile. Et à un moment, un jour, je la vois arriver avant le culte. Elle ramène une plante. Elle dit, pasteur, est-ce que vous accepteriez que je puisse offrir ça pour le Seigneur ? Et la personne qui m'avait dit, elle était là. Et je peux vous dire que là, j'ai vu des larmes couler. Je me dis, Seigneur, garde-nous. Garde-nous de regarder les autres avec des yeux différents que les tiens. Et merci de nous avoir regardés avec tes yeux, Seigneur. N'est-ce pas ? Le regard, l'amour, la douceur, la compassion, l'autorité de Jésus confondent les adversaires. La Bible nous avertit et je crois qu'on a... D'autant plus que nos yeux sont sollicités de différentes manières, on a intérêt à faire attention. Proverbe chapitre 23, versets 6 à 8 dit « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais et ne désire pas ses friandises, car il est tel que sont les arrière-pensées de son âme. « Mange et bois », te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Tu vomiras les morceaux que tu as mangés et tu auras perdu tes paroles agréables. En peu de paroles, fais attention à qui tu pratiques. Tu peux devenir comme, voire pire. Non ? Et le Seigneur nous dit de faire attention. Nous devrions nous aspirer les uns les autres à porter le regard de Christ, voir comme Christ voit. N'oublions pas que si nous ne voyons que le présent, Jésus voit aussi le passé, mais il voit aussi l'avenir. N'est-ce pas? C'est beau, hein? Quelle grâce pour nous de savoir la manière de voir de Jésus. Vous savez pourquoi le monde est perdu? Parce qu'il voit avec ses yeux. Et quand nous lisons la parole de Dieu et nous voyons ce que Jésus nous dit, Jésus ne nous invite pas à regarder le monde avec ses yeux. Et quand on le fait, qu'est-ce qu'on voit? Un monde qui a besoin de salut. Un monde qui va vers sa fin. Un monde qui a besoin de réconciliation. Le peuple de Dieu devrait désirer confondre les ennemis de Jésus. Proverbe chapitre 22, verset 9 dit « L'homme dont les regards est bon sera béni parce qu'il donne de son pain à l'indigent. » Que Dieu nous donne ce regard. Amen. Et après, deuxième effet, la foule. Si les uns étaient confus et déstabilisés, les autres, dit la foule, se réjouissaient de toutes les choses glorieuses qu'ils faisaient. Qu'en dites-vous? Et si on devenait tous des fervents utilisateurs des réseaux des cieux? Vous savez, les réseaux sociaux sont utilisés aujourd'hui à tort et à travers. Et je me dis qu'autant qu'enfant de Dieu, on doit faire attention à ce qu'on regarde. Parce que ça peut pas mal nous conditionner. Mais si on prenait plus de temps à passer nos regards sur les réseaux des cieux, qu'est-ce qu'on pourrait découvrir? Qu'est-ce que je peux découvrir si je regarde dans les réseaux des cieux? Dites-moi. Au lieu de voir ce que l'un fait ou l'autre fait, ou ce qu'il mange ou ce qu'il ne mange pas, parce que des fois c'est... Non? C'est raconter sa vie, ouais. Avec les problèmes qui vont avec. Et si je sollicitais les réseaux des cieux et le Seigneur me disait, voilà, prie pour elle parce qu'elle a besoin de ceci. Prie pour telle personne parce qu'elle a besoin de cela. Tu vas faire telle visite, prie pour cette personne et Dieu te montrera ce qu'elle a besoin d'entendre. Qui voudrait solliciter les réseaux des cieux? Mais ça, on peut le faire que si on emprunte les yeux de Jésus-Christ. Parce qu'autrement, on est trop limité. N'est-ce pas? Proverbe chapitre 15, verset 30, il dit « Un regard lumineux réjouit le cœur. Une bonne nouvelle fortifie les membres. » Je crois que nous sommes engagé fortement non seulement à emprunter, mais constamment garder les uns et les autres les yeux de Jésus. Je crois que du moment qu'on le fait, nos priorités changent. Je crois aussi que nos sentiments seront fortement impactés. Non ? Je ne vois plus la personne de la même manière. Notre langage et nos actes changent parce que c'est Dieu qui amène transformation. Je disais dernièrement des changements que Dieu peut produire dans la vie de quelqu'un et du fait que nous, parfois, on veut que les choses aillent vite. Sauf qu'on ne vit pas la vie des autres, non ? Et on a besoin que Dieu nous donne aussi la patience puisque Dieu fait preuve de patience avec nous. Êtes-vous d'accord avec moi? On n'est pas tous des cas faciles. Moi, je ne rentre pas dans la case. Cas très compliqué. Et tous les jours, je dis, Seigneur, merci de faire preuve de patience. Et si on veut que Dieu fasse preuve de patience envers nous, est-ce que nous, on ne doit pas faire preuve de patience envers les autres? Alors, si on devait demander à Dieu une mesure de patience, vous demanderez quoi comme mesure? Est-ce que vous prenez une petite règle de 10 cm? Ou est-ce que vous prenez un décamètre? Un décamètre? Moi, je prends directement, c'est le truc qui mesure les routes. Et pour la grâce, vous allez utiliser quoi? Une petite réglette de 15 cm? Quoi? Mais vous savez qu'on sera mesuré avec la même mesure qu'on mesure les autres? Ça veut dire que je dois apprendre à regarder et à demander et à mesurer avec beaucoup de grâce et que Dieu me garde de juger qui que ce soit parce que si je juge, je suis jugé. Je suis en train de me juger moi-même. N'est-ce pas? Alors vous voyez, emprunter les yeux du Seigneur change tout. On termine. Dernière référence. 2 Timothée chapitre 2. Versets 24 à 26. Il dit, oh, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Alors je crois qu'on est tous serviteurs et servantes du Seigneur. Hein. Ce n'est pas que pour les pasteurs, hein, parce que là, tout de suite, tu vois, c'est pour les pasteurs, ça c'est bien. Non, c'est pour tous, et ça c'est mieux. Or, il ne faut pas que le serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable envers tous. Avoir le don d'enseigner et de supporter. Il doit redresser avec douceur les contradicteurs dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Cette femme a été libérée après 18 ans d'emprisonnement. Et le Seigneur l'a redressée. Peut-être c'est nous qui avons besoin d'être redressés. Mais peut-être que le Seigneur mettra sur notre chemin d'autres personnes qui ont besoin d'être redressées. Alors n'allez pas les prendre en leur disant « Je te redresse !» Parce que là, je peux vous dire, vous allez entendre un hurlement et vous risquez de vous prendre une imposition des mains. Mais je crois que si le Seigneur l'a touché, à aucun moment a utilisé de force, il a utilisé de puissance. Voulons-nous être remplis de la puissance du Seigneur? Alors il faut absolument qu'on apprenne à dire, Seigneur, aide-moi à regarder avec tes yeux. Aide-moi à emprunter tes yeux. On va fermer nos yeux. Et encore ce soir, on va ensemble dire au Seigneur, Seigneur, viens, Seigneur, et ouvre nos yeux pour que nous puissions, Seigneur, voir les autres autrement. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions regarder les autres sans jamais, Seigneur, prendre une liberté quelconque de juger, mais Seigneur, d'invoquer ta miséricorde dans leur vie. Seigneur, permets-nous de voir, Seigneur, avec tes yeux pour que nous puissions, Seigneur, avoir de ta part une solution pour eux. Seigneur, donne-nous, Seigneur, d'être des instruments entre tes mains pour relever ceux qui sont courbés. Seigneur, même un jour courbé, c'est déjà trop. Seigneur, il y a des âmes qui sont courbées depuis des années. Peut-être ils ont vécu courbés toute leur vie. Et Seigneur, nous sommes appelés à être des instruments entre tes mains pour que tu puisses les redresser, tu puisses les relever. Et Seigneur, peut-être quelqu'un parmi nous ce soir est courbé à cause des problèmes, des difficultés. Seigneur, et tu es là non pas pour le juger, mais pour l'aider. Ton regard est un regard miséricordieux. Seigneur, alors que nous avons nos yeux fermés, tes yeux sont ouverts. Et je te prie, Seigneur, toi qui vois toutes choses, viens poser ta main sur ceux qui ont besoin de toi ce soir encore, Seigneur. Viens poser ta main sur ceux et celles qui ont besoin, Seigneur, d'être relevés par ta grâce. Seigneur, je te prie aussi de poser tes mains sur nos yeux, de nous guérir de peut-être d'une forme de regard comme celui de cet homme chargé d'un lieu où, en effet, il aurait dû être beaucoup plus aimable que ça. Mais malheureusement, Seigneur, il était tombé dans l'égalisme. Alors, Seigneur, soigne nos yeux si nous sommes tombés dans l'égalisme. Soigne nos yeux, Seigneur, si nous sommes tombés dans le jugement. Soigne nos langues, Seigneur. Soigne nos sentiments. Soigne, Seigneur, nos vies. Pour que nous puissions être la manifestation de la grâce de Jésus-Christ. Et Seigneur, de la même manière que nous désirons que tu aies une mesure très large de grâce et de patience envers nous, donne-nous de savoir user de patience et de grâce envers ceux qui nous entourent. Seigneur, merci encore pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, de nous permettre d'être tous, Seigneur, tous inscrits dans les réseaux des cieux, pour que, Seigneur, nous puissions accomplir, Seigneur, encore dans cette génération, Seigneur, d'être des instruments pour la gloire de ton nom, Seigneur, pour que nous puissions être des témoins efficaces, Seigneur, de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu guérit encore aujourd'hui, parce que Dieu libère encore aujourd'hui, parce que Dieu aime les hommes et les femmes, encore aujourd'hui, ton regard miséricordieux et ce regard de salut qui est encore valable aujourd'hui, Seigneur. À toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.